Nous tissons la trame de l'histoire.
5 noblesse.
Quoi, il suffit de baiser la main des dames dans les salons, de changer pour dîner et de se laver les doigts à poil de poisson? Ça se paie, ce que nous sommes. Et ça se paie chèrement. Et nous l'avons toujours payé chèrement jusqu'à présent. Et quand on ne veut plus payer, quand on lésine sur le prix, quand on commence à jouer sur les deux tableaux, un peu aristocrate, un peu arriviste, un peu aristocrate, un peu danseur de cordes ou marchand de tapis, j'ai le regret de vous dire que très vite, on n'est plus qu'arriviste ou marchand de tapis.
Pierre Fresnay soi-même. La France se retrouve dans la globalisation d'aujourd'hui un peu comme la noblesse dans la République d'autrefois. Son héritage la met dans une situation d'inadapté et en même temps, il lui confère une image qui lui garde une singularité. C'est pour cela que ce milieu de 3000 familles seulement mérite la curiosité. Il ne constitue pas une résurgence, il est un révélateur pour le devenir du pays. La noblesse en France a traversé la même mésaventure que la France connaît dans le temps d'aujourd'hui. Elle a dit tout le mal qu'elle a pu de la République, puis notre Jean d'Ormesson est allé mourir pour elle. Beaucoup de sang bleu a coulé dans les tranchées. Elle compte pour 7% des compagnons de la Libération. Mais voilà, le panache ne suffit pas à arrêter le temps, ni pour le pays, ni pour la noblesse. L'internationalisation des carrières des jeunes nobles, l'individuation des comportements, la volatilité des mariages, la mettent devant une contradiction imminente. Contradiction que la France entière peut comprendre. Comment garder sa verdeur à un passé que les tendances dominantes à l'œuvre aujourd'hui voudraient rendre insignifiant.
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Avec Éric Mancion-Rigaud, bonjour.
Bonjour Jean Lebrun.
Xème livre sous votre signature aux excellentes éditions Fayard sur la noblesse. Je dis Xème livre, mais tous vos ouvrages sont renouvelés. Ce n'est pas un sujet éculé que vous étudiez. Et puis, une des particularités de votre travail, c'est de se fonder, j'allais dire, sur l'enquête orale. Mais enfin, ce n'est pas le mot qui convient quand on traite de la noblesse.
Je suis l'historien de la confidence suscitée. J'aime profondément l'archive. Certains de mes livres portant davantage sur le 19e siècle sont issus du dépouillement d'archives de fonds importants dans les archives Caslan pour ma biographie de Bonnie Caslan, dans les archives Gramont pour le journal d'Alfred de Gramont, qui est un journal écrit au tournant du siècle. Mais cet ouvrage est fondé sur une observation ethnographique, je fais de l'ethno-histoire, et il est le fruit de 25 ans de rencontres avec un grand nombre de ces 3000 familles qui constituent encore ce cortège nobiliaire.
Alors, juste une précision, 3000 familles, 100 000 membres, parce que les familles ont un taux de fécondité supérieur à la moyenne, on ne va parler que de la noblesse. J'allais dire d'un mot que vous allez trouver grossier,
labellisé, estampillé par l'Association de la noblesse française, dont la commission d'épreuve est héritière des généalogistes royaux sous l'Ancien Régime.
Vous avez, à force de conversation, maîtrisé tous les codes qui conviennent à ce milieu, c'est-à-dire qu'on va peut-être les expérimenter dans l'émission, il faut aller vite.
Nous aurons certainement l'occasion, dans tous les magnifiques extraits que vous avez choisis, et là a été évoqué d'ailleurs d'entrée de jeu, l'importance des codes, la tenue à table, le salut. L'un des paradoxes de la noblesse, c'est d'avoir disparu juridiquement dans le courant du 19e siècle, d'être faible numériquement, comme vous l'avez rappelé, et en même temps de continuer à entretenir un imaginaire et qui est certainement le fruit du fait que lui a été reconnu très vite au 19e siècle la maîtrise des critères de l'élégance et la taxinomie des règles du savoir-vivre. Et c'est ce qui explique, c'est ce qui contribue aussi à un certain aura. Et il est évident que pour entrer dans ce milieu et pouvoir justement susciter de la confidence, il vaut mieux maîtriser les règles.
Alors la conversation doit être rapide, ne s'appesantit pas. On peut se permettre de temps en temps des coups de griffe, vous allez le faire. tendresse et noblesse, ça ne rime pas.
Le milieu, comme toute entité fermée, le milieu a aussi ses propres hiérarchies internes, ses rivalités. La noblesse n'a jamais été dans l'histoire un groupe homogène. L'homogénéité de la noblesse lors de la réunion des États généraux est un mythe. Et les États généraux, vous le savez aussi bien que moi, n'ont pas été réunis entre 1614 et 1789. Donc la noblesse n'a jamais été un corps homogène. Il est traversé par, bien sûr, des rivalités, des amitiés, des inimitiés.
Premier aperçu sur le changement du château. Je ne sais pas s'il faut dire château. D'ailleurs, vous ne dites pas milieu. Vous dites milieu, vous ne dites pas classe. Il ne faut pas dire château, il faut dire...
Plutôt maison.
Maison. Il y a eu beaucoup de maisons qui ont été construites au XIXe siècle. Il y a eu une fièvre de construction de châteaux qu'on n'imagine pas.
L'un des multiples paradoxes du XIXe siècle concerne précisément les châteaux. La Révolution tue la seigneurie comme entité politique, mais ouvre l'âge d'or des châteaux en France. La France se couvre de châteaux. Certaines régions, comme la Sologne, qui bénéficient évidemment d'une attraction accrue en raison des chemins de fer, voient un nombre de constructions de châteaux en l'espace de 50 ans supérieur aux 4 siècles précédents. Le XIXe siècle est la grande période des constructions de châteaux Louis XIII en briques et pierres.
Et alors, quand on ne construit pas un château en entier, on peut ajouter une chapelle au château. Le château de Siret, Haute-Marne, Madame du Châtelet, Voltaire, c'était un château des Lumières, la famille qui le gère au XIXe siècle.
Construit une chapelle, qui est la famille de Salignac-Fénelon. Ça s'explique pour deux choses. D'une part, il y a une volonté de recréer la seigneurie. Or, le château signale à la fois le pouvoir militaire de la noblesse, son pouvoir juridique exceptionnel, son lien avec la campagne et aussi son attachement à la religion. Dans l'un de mes livres, je dis que, citant l'une de mes enquêtées, je dis que la noblesse avait pour vocation de défendre la terre, de la cultiver et de la bénir. Donc les chapelles au XIXe siècle témoignent aussi fortement de ce rapprochement du donjon et du presbytère, qui est le titre du donjon et du clocher, qui est le titre d'un de mes livres.
Au plaisir de Dieu, c'est le titre d'un livre encore plus connu de Jean d'Ormesson, adapté à la télévision par Robert Mazoyer.
Savez-vous, Gabriel, quel jour nous sommes? Le 21 janvier 1906, jour anniversaire de l'exécution de Louis XVI.
Dites-moi, Paul chéri, est-il vraiment nécessaire que j'assiste à cette messe?
Indispensable. Il y a 112 ans que nous y assistons tous. Vous n'allez pas être la première à faire exception.
Et pourquoi pas? Il faudra bien que quelqu'un ait un jour le courage de rompre avec vos traditions.
Ce qui est plaisant, c'est que si tous les ans, à pareille date, nous allons nous geler à la chapelle, c'est pour assurer le salut d'un homme dont nous sommes par avance persuadés qu'il est monté tout droit au ciel.
Bonjour, maman. Avez-vous passé une bonne nuit?
Merci, mon petit, oui. Bonjour, Pierre. Vous êtes beau comme un astre.
Bonjour, grand-mère.
Tenez, approchez-vous du feu. Il faut faire provision de chaleur. Vous savez que, même chauffée, la chapelle reste glaciale.
Alors, le château d'eau, au plaisir de Dieu, a été vendu. Les contemporains de Jean d'Ormesson ont beaucoup critiqué sa famille pour cela. Heureusement qu'il y a des femmes qui cherchent des motifs d'adaptation. Ce sont souvent, d'ailleurs, par elles, que les châteaux ont été maintenus dans de nouvelles vocations. Vous insistez beaucoup, Éric Mancion-Rigo, sur le château accueil des années 1960-70, vous savez, avec la chambre d'hôte sans télé, sans téléphone.
De toute façon, d'une manière générale, et je crois à toutes les époques et maintenant plus que jamais, ce qui compte dans un château, c'est la châtelaine. Et les châtelaines ont vocation à donner une âme à un château. Un château, c'est fait pour vivre. C'est le drame des châteaux actuellement, où il y a moins de personnel, où il y a les familles sont parfois moins nombreuses, les enfants sont plus dispersés. Un château, c'est une entité qui est faite pour recevoir beaucoup de monde.
Madame de Bouillet a expérimenté, on l'a beaucoup connue, les journalistes allaient très souvent la voir dans les années 70, 80, encore 90, ce style d'accueil au Réo, c'est à côté de Bourgueil.
Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir,
vous
monsieur.
Bonne route.
Très bonne, merci. Oui.
Bien, est-ce que je peux prendre votre bagage?
S'il vous plaît, oui.
Alors. Bien, nous allons rentrer, je vais vous montrer votre chambre.
Oh, vous êtes jolie, votre chambre.
Quelquefois, je compare ma vie au Réo à une comédienne. Mon décor, c'est cette maison. Le public, ce sont mes hôtes. Et moi, je suis aussi bien mon époux que mes enfants, si vous voulez. C'est naturellement la famille entière. Il faut qu'elle réponde à ce que les autres imaginent et rêvent surtout.
Lorsque vous avez ouvert le château à vos hôtes, comment votre famille, vos amis ont-ils réagi?
Ouh là là. Ouvrir cette maison à des inconnus. Ils étaient qui, ces gens? D'où venaient-ils? Qui étaient-ils?
Ils n'étaient pas dans le motin mondain.
Par exemple, dans le crottin mondain, comme je l'appelle. Moi, j'ai quelqu'un, enfin pas un ami, parce que ce n'est plus un ami à cause de cette réflexion, qui m'a dit textuellement, moi je préfère mourir, on ne peut pas dire autre chose, que d'ouvrir mon château à une activité comme la tienne.
TF1 1991. Eh bien, voilà que ce château qui s'ouvrait à des inconnus a été vendu en 2005 à des inconnus, enfin autant dire des oligarques ukrainiens.
Un patron de presse ukrainien.
Ouais. Alors ça, c'est le signal qu'on est en train de franchir un seuil pour vous.
Actuellement, en France, il y a plus d'un millier de châteaux qui sont en vente. Il est évident, un millier de châteaux et peut-être même plus, puisqu'il y a même maintenant des châteaux qui étaient en vente il y a 3 ans qui sont retirés de la vente. Le côté positif, c'est qu'évidemment, on assiste à un effondrement du prix de vente des châteaux. Donc, ça va peut-être rendre les successions plus aisées et inciter quelques jeunes héritiers à mieux s'entendre et à reprendre pour l'un d'entre eux le château. Il est évident qu'il y a une fragilisation de ces monuments historiques qui est lié à deux choses. D'une part, un déphasage croissant entre la vie quotidienne, le monde du travail et ces maisons qui demandent un investissement en argent, mais surtout un gros investissement en temps. Il faut beaucoup y penser. Ce n'est pas une maison dans laquelle on peut aller 15 jours par an. D'autre part, la noblesse française, les jeunes générations sont tournées dans le monde du travail qui internationalise, alors que l'identité aristocratique est celle de l'ancrage terrien, et donc il y a évidemment une incompatibilité entre les deux qui est de plus en plus patente.
Mais il ne faut pas y voir un signe de déclin économique, parce que c'est plutôt un signe de l'optimisation des fortunes.
Le problème des châteaux, c'est que c'est l'immobilisation d'un capital important et d'un capital qui coûte, avec des impôts fonciers très lourds, des travaux importants et qui sont permanents. Il est évident que quand un château est vendu et son argent réinvesti dans l'immobilier parisien qui rapporte, on ne peut pas parler d'appauvrissement de la noblesse, bien au contraire.
Beaucoup de jeunes nobles font, dites-vous, HEC, l'ESSEC, ils savent gérer les fortunes des autres, ils savent transmettre intelligemment aussi la leur. C'était pas des métiers de la noblesse, à l'origine, ceux que je viens de citer encore, expliquez-vous, Éric Mention-Rigaud, qu'on a beaucoup exagéré l'importance de la dérogeance sous l'Ancien Régime, l'interdiction qui aurait été faite à la haute noblesse et à la noblesse en général de participer à des métiers de commerce et d'industrie.
D'abord, il y a une règle fondamentale, c'est que la noblesse et surtout la haute noblesse et la curialisation à Versailles, elle a encore aggravé, a toujours été engluée dans des problèmes d'argent. Donc elle a toujours eu besoin d'argent et elle a compensé son besoin d'argent par d'une part de bons mariage avec des roturières carrées sur des sacs d'écu. Et
attendez,
d'autre part,
soyez clair, on dit de ces femmes qui se marient dans les milieux nobiliaires, les nobles les pratiquant l'opportunisme, on dit qu'ils sont...
On les appelle des sacs ou des lingots.
Ah enfin, oui, voilà, on comprend mieux.
Madame de Sévigné disait fumer ses terres. Donc d'une part, ça a été l'une des manières les plus efficaces pour la noblesse de se tenir à flot. Et d'autre part, en particulier la haute noblesse, déjà sous l'Ancien Régime, un certain nombre de travaux l'ont montré, était utiliser des hommes de paille pour se lancer dans des opérations immobilières et parfois même dans l'industrie. De toute façon, la noblesse avait le droit de bien sûr d'exploiter la terre, mais également d'avoir des forges. Il y en a un exemple spectaculaire en Bretagne avec les forges de Sales qui avaient été créées par le premier duc de Rohan au début du XVIIe siècle et qui avaient pour vocation de fournir des canons à la marine.
Et maintenant, les Pontavis font des livres sur la cuisine de château, métier honorable que celui d'éditeur ou d'auteur. Les métiers pratiqués souvent dans la noblesse, l'école des chartes pour former au métier d'archiviste, l'armée bien sûr, Saint-Cyr. Il y a la musique aussi.
Alors,
il y a beaucoup d'exemples.
Il y a toujours eu, d'abord, la musique a toujours été une activité de salon, et il y a quelques créateurs, et en particulier un représentant de cette famille de maîtres.
Vous voulez dire Xavier de Maistre ?
Xavier de Maistre.
Là, vous pouvez vous permettre un coup de griffe, une petite méchanceté.
Il vaut mieux être le meilleur harpiste du monde que le gestionnaire de fortune qui se retrouve en correctionnel à Bordeaux. Et puis nous, on voulait prendre un autre exemple, c'est Marianne de Truchy de Varennes, que vous citez, labellisée, estampillée ANF.
Et que le public connaît sous le nom de Zazie.
Oui, vérifiée en 1661 par la grande enquête de Colbert.
On s'attend à vivre la même vie, et pourtant seulement, ce qui nous sépare nous unit. J'adore, tu n'aimes pas, je sors, tu restes là, j'accours, tu es parti, c'est le jour.
De l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Singulière noblesse, c'est le titre du dernier livre d'Éric Mancion-Rigaud aux éditions Fayard, où il soutient que la noblesse n'est pas sur une pente descendante, mais cependant, à un moment critique, ce ne sont pas tant les fortunes qui sont ébréchées que les singularités qui sont menacées. Les singularités, c'est l'affaire d'un patrimoine immatériel. Vous pourriez nous donner un ou deux exemples ?
D'une part, la noblesse, c'est du temps accumulé. Et c'est l'une de ses grandes forces, c'est-à-dire que c'est lui est associé l'image de la patine et donc de, un usage de l'argent qui est le contraire de, du bling-bling, puisque c'est de l'argent hérité. Et c'est un groupe social qui n'a plus rien à prouver, donc qui n'est pas dans une logique d'ascension sociale et dans une logique de maintien, hein, dans sa, dans le statut qui est un statut parfois pluriséculaire. Et ça le contribue beaucoup à une sorte de magie, c'est-à-dire que lui est reconnu la maîtrise d'un un certain nombre de comportements élégants, d'un certain nombre d'usages policés. C'est l'incarnation de ce que l'on doit faire pour être distingué.
Exemple, autour du château, on ne va pas planter des fleurs rares et extrêmement coûteuse. Le dahlia, ça suffit.
Le dahlia, ça suffit. L'objectif est toujours de respecter l'esprit des lieux. C'est encore une fois le poids de l'histoire, le poids du passé, le poids du lien intergénérationnel et le refus du show-off de ce qu'on appelle le bling-bling depuis Sarkozy. L'une des pires insultes dans l'aristocratie, c'est de dire de quelqu'un qu'il est un parvenu. C'est-à-dire quelqu'un qui ne s'adapte pas aux circonstances, aux lieux, aux personnes qui sont autour de lui.
Avec simplicité.
Avec simplicité. C'est-à-dire que on a beaucoup, sous la Révolution, stigmatisé la morgue de la noblesse. Alors, il y a toujours eu, à toutes les époques, des aristocrates qui se sont peut-être mal comportés. Mais la simplicité est une des qualités majeures de la noblesse. C'est-à-dire ce souci d'essayer d'être toujours à l'aise partout, quel que soit l'interlocuteur et quel que soient les circonstances, c'est-à-dire de prendre avec une certaine distance tous les codes.
Et la vie de château, c'est une ascèse. Pierre Fresnay, dans le genre, on l'a entendu tout à l'heure, on va l'entendre de nouveau, est parfait. Il est monsieur de Maubrun dans Les Aristocrates, le film de Denis de la Patellière, adapté lui-même d'un livre de Michel de Saint-Pierre en 1955.
C'est comme si vous m'étiez tous devenus des étrangers.
Vous n'avez pas compris, papa.
Ben vous voyez bien, je n'invente rien, nous ne parlons plus le même langage.
Alors je me suis dit, tu es trop vieux, tu ne peux plus comprendre.
Nos règles de vie, c'est très joli, mais ça n'a plus cours. Ne proteste pas, Gontran, vous ruez tous dans les brancards, vous n'en pouvez plus de moi. C'est pas l'envie qui me manque de vous laisser tranquille, je suis fatigué moi aussi. Seulement voilà, je vais vous sembler bien ridicule. J'ai autant de devoirs, et même plus. envers ceux d'avant, qui sont dans la terre de Maubrun, ou qui ont laissé leur guenille aux quatre coins de l'Europe, qu'envers vous. Peut-être bien, après tout, qu'il n'y a plus d'aristocrates. Peut-être bien que l'argent nous a tous pourris à notre tour. Et si nous n'en avons pas, c'est encore pire. Il nous brûle le cœur. Peut-être bien que tous ceux qui portent un nom sont comme vous, des façades, des trompe-l'œil. Ces noms que vous ne méritez plus, il faudra bien que d'autres les méritent. Peut-être bien que les aristocrates sont ailleurs, dans le peuple. Inconnus, humbles, mais ardents, fiers, généreux, prêts à tout donner, tout, contre rien.
Et noble celui qui est quelqu'un et qui est donc contemporain de ses aïeux qui ont autant d'importance que ses enfants.
La noblesse garde le souvenir tout de même que, à l'origine, c'est le regroupement des meilleurs. C'est le sens d'aristocrate et c'est le sens aussi de l'adage noblesse oblige. C'est-à-dire qu'il faut être à la fois, il faut être à la hauteur d'eux. C'est-à-dire que la gloire est le ressort de l'aristocratie, mais la gloire signifie l'addition de gloire. C'est-à-dire qu'on hérite à la fois d'un modèle et de la notion de l'héroïsme, la notion de héros est fondamentale dans la noblesse et l'éducation vous impose d'être à la hauteur. Donc elle est évidemment aussi une forme d'ascèse, une obligation oui. morale qui promeut le sens du devoir, etc. Le courage.
Mais sérieusement, Éric Mancion-Rongo, vous croyez que les jeunes nobles que vous rencontrez, ils s'y retrouvent dans le jeu de loi, des histoires familiales? Et ils ne s'y perdent pas comme dans un labyrinthe.
Alors la perte des châteaux qui était le lieu, le point d'ancrage familial, mais aussi le lieu des retrouvailles familiales, le lieu des mariages, il est évident que la perte du château fait courir le risque à la noblesse d'être hors sol et donc de moins connaître toute la parentèle élargie dans des familles qui cultivent les cousinages jusqu'à la 15e génération. Et là, il y a en effet un risque de perte et le risque de ne plus maîtriser ces méandres de ce maillage social qui fascinait tant Proust et Balzac.
Et noble celui qui est de quelque part, vous parlez du hors sol qui menace, mais pendant les vacances de février. C'est quand même plus plaisant d'aller à Saint-Barth qu'au Plessis-Vaudreuil dans les courants d'air.
C'est le problème. Comme m'a dit un jour une châtelaine dont les petits-enfants ne viennent pas, elle m'a dit « Comment voulez-vous que je rivalise avec l'île de Ré, avec la Corse ?» Son château est un château fort du fin fond de la Franche-Comté.
Au début de l'hiver, on se retrouve quand même au Crillon, quand il n'est pas fermé et que son propriétaire, une grande famille saoudienne veut bien exercer avec bienveillance son droit d'invitation. On se retrouve pour le bal des débutantes. Et là, la noblesse n'apparaît plus que comme une composante de ce qu'on appelle les élites contemporaines.
Parmi les débutantes de l'année, il ne reste plus qu'une demi-douzaine de filles de la noblesse européenne. Aude la Française est la fille du comte de Comarque dans le Périgord.
Une des débutantes françaises et la ravissante Aude de Comarque.
Aude de Comarque. Au fond de la salle, les parents d'Aude sont à table avec le duc et la duchesse de Rohan. Au bal, ils forment le dernier carré de la noblesse française.
Dernier carré, ça veut dire qu'il n'y en a plus guère, mais on est heureux de pouvoir rencontrer toutes ces personnes du monde entier aussi.
Jana, la mère de Zoé, la débutante russe, est là, elle aussi, qui rayonne.
C'est une reconnaissance, mais vous savez, il faut le prouver à chaque instant.
Il est 23h. L'heure de la valse est enfin arrivée. Signe des temps, c'est Sabrina, la descendante du compagnon de Mao, qui a été désignée pour ouvrir le bal.
Voilà qu'il y a des débutantes chinoises, fils du compagnon de Mao. C'est un reportage d'Antenne 2.
Oui, ce bal des débutantes qui a été recréé il y a une vingtaine d'années, qui je crois a été présenté pour la 24e édition dans l'hiver dernier, enfin cet hiver en décembre, n'a rien à voir avec ce qu'était la splendeur des bals aristocratiques encore dans les années 60. Ce sont des opérations de communication et qui sont sponsorisées par les grandes maisons du luxe, en particulier les grandes maisons de couture, et qui donc s'adresse à une clientèle internationale.
Mais dites-moi, la menace principale, elle est en fait dans l'évolution de la famille. Imaginez qu'un duc titré vient de voir le professeur de Sorbonne que vous êtes. Mon jeune fils va aller sur un campus américain. Alors là, vous le prévenez, faites attention au sperme ducal.
Il faut faire attention au sperme ducal, ou au sperme comtal, ou au sperme de marquis, parce que depuis, les lois sur la famille ont beaucoup changé, et l'un des grands changements est l'égalité absolue établie entre la descendance légitime, ce qu'on appelait autrefois légitime, terre née à l'intérieur du mariage, et les enfants illégitimes qui ont exactement le même droit à l'héritage. Et en plus de ça, maintenant, les tests ADN permettent de vérifier toute paternité. Donc, il est évident que pour éviter la division des héritages, vaut mieux qu'un jeune héritier ne disperse pas son sperme et n'apporte pas une vaste progéniture qui va évidemment jouer le rôle de hachoir du patrimoine.
Mais alors, si il se marie, mais civilement.
Alors, l'association de la noblesse française considère que la noblesse se transmet à l'intérieur du mariage et à l'intérieur du mariage religieux exclusivement. Ce qui n'est pas évidemment sans susciter parfois quelques critiques, puisque
vous parlez même d'Assemblée Générale de l'association de la noblesse française qui ressemble à des soviets.
Certains considèrent que le mariage civil a le statut du mariage religieux sous l'Ancien Régime, puisque seul existait le mariage religieux sous l'Ancien Régime. L'association de la noblesse française reste attachée à ses valeurs et considère qu'en l'absence de souverain pour légiférer et la République se reconnaissant incompétente en matière de droit nobiliaire, défend l'idée de rémanence du droit d'Ancien Régime.
Depuis le maréchal de MacMahon, deuxième président de la République française, il n'y a plus d'adomlissement. Mais c'est quand même assez absurde, je vous vois très poli, Éric Mention-Rigaud. S'il y avait une monarchie constitutionnelle intelligente aujourd'hui, en France, elle aurait fait évoluer le droit du mariage.
L'actuelle reine catholique qui est divorcée serait évidemment assez mal placée pour exiger de l'ANF qu'elle maintienne la rémanence du droit d'Ancien Régime. Mais c'est la spécificité de la noblesse française. L'une des singularités de la noblesse française, c'est d'être un groupe fermé, puisque la noblesse, la République n'anoblit pas. Mais il est évident qu'il y a un risque pour l'association de la noblesse française de perdre un certain nombre de nobles de valeurs. D'autant plus que la noblesse est aussi une question de sang et la transmission par le sang est quelque chose qui est essentiel dans les valeurs nobiliaires.
Et c'est pas tout, avec la loi de 2002, on peut choisir entre le nom de son père et le nom de sa mère et ça provoque un sacré brouillage,
c'est
une multiplication.
Chose, évidemment, et c'est quelque chose qui là brouille les choses pour l'ensemble des généalogistes, puisque avant le nom se transmettait par le père et les enfants le transmettaient intact. Or là, on peut assister à des démontages et des recollages de noms extrêmement compliqué. Et il y a en plus de ça une transmission matronymique du nom qui va certainement entraîner la prolifération de noms à particules.
Bon, je ne veux pas vous fâcher avec une autre famille ducale, mais c'est dans votre livre, Singulière Noblesse, Fayard, que j'ai trouvé cette histoire. Le dernier duc de Broglie est mort célibataire, mais il avait un fils naturel. Et la justice a établi le droit du fils naturel sur le château de Broglie. Hein, c'est comme ça qu'on dit. Ça fait partie des codes. Et c'en est un autre qui a le titre de duc selon les règles de l'ANF, le frère du mort.
Ce matin ont eu lieu à Breuil les obsèques du duc Maurice de Breuil. J'appelle Pierre de Lagarde.
Ici Breuil, eh bien vous l'entendez, sur la place de l'église en ce moment, toute la commune est réunie pour assister aux obsèques de son maire qui fut élu à la tête de la municipalité sans interruption depuis 1911. Duc de Breuil, il appartenait à l'une des plus vieilles familles françaises, famille qui s'est illustrée tout au cours de notre histoire. Et ce fait explique la présence ici des plus grands noms de la noblesse, du marquis, de la marquise de Lupé, du comte et de la comtesse de Sens, et surtout du duc de Lévire Mirepoix.
Oui, ce mort est glorieux. A-t-on jamais vu en effet conduisant l'un des siens au seuil des ténèbres, escorte plus auguste, réunion plus illustre, assemblée plus puissante.
L'émission a été réalisée par Jacques Sigal, la préparation Martin Cellier, à la technique Elisabeth Collet.